Non.
Oh non, ça sert à.
Bien. Bien, alors, vous êtes prêts?
Oui.
J'ai révisé les chefs-d'œuvre que vous connaissez tous et que nous nous apprêtons à redécouvrir. Alors, vous connaissez tous les principes de séance. Vous savez que ce cycle est consacré à des chefs-d'œuvre, c'est-à-dire des œuvres, et je vous le disais la dernière fois, on va se contenter du champ occidental, hein, parce que ce serait un petit peu peut-être compliqué autrement. Des chefs-d'œuvre, c'est-à-dire des œuvres très célèbres, très connues, que nous connaissons vraiment tous. Je ne pense pas qu'il y a une parmi les cinq œuvres que nous allons voir dans ces séances que vous ne connaissiez pas, ou pas bien. Simplement, ce sont des œuvres qui, parfois, ne sont peut-être pas si bien connues que ça. Et le but, c'est finalement de revisiter ces œuvres-là. Alors, vous connaissez nos principes, que je ne recommande pas, mais que je montre toujours au début des séances. Vous les savez, et je vous propose de découvrir sans attendre le nouveau chef-d'œuvre du jour, qui est. Qui est. Voilà. Je vous l'ai dit, vous les connaissez tous. Eh bien, je n'ai pas, je ne suis pas venu. Bon, c'est un peu clair, hein, mais enfin, bien. Vous ne voulez vraiment pas qu'on ferme, non?
Non.
Parce que c'est vraiment un peu clair. Hein. Il y a des choses qu'on verra peut-être pas très bien. Enfin, tant pis, on sait.
Ça va foncer, là.
Oui, ça devrait foncer. Bien, alors, nous sommes devant donc la laitière de Vermeer. Alors, c'est bien, voilà le nom, voilà le titre. Maintenant, ils vont m'en dire davantage. Par exemple, d'abord, une chose toute bête, où se trouve, par exemple, cette œuvre? De quelle période date-t-elle? Et puis, qu'est-ce qu'elle représente? Et qu'est-ce que l'on peut dire sur cette représentation? Vous voyez, il y a des choses à dire. Hein. Alors, on commence par le départ, la période, par exemple, de cette peinture, parce qu'on sait que c'est une peinture sur toile, bon, ça, ok. Est-ce que vous auriez une idée de sa datation, à peu près?
17e
Avant?
Oui.
Non.
15e?
Non.
17? 16?
Non.
Fin 16e, début 17e?
Non.
Bon, je vois qu'il y a des. Vous voyez, j'avais raison aussi, hein. On les connaît, mais pas si bien. Donc on va sur la fin 16, début 17e, c'est ça? Je sens qu'il y a des gens plutôt 16e, des gens plutôt 17e. On va rester dans ces deux siècles-là?
Oui.
Vous penchez plutôt sur le 16e ou plutôt sur le 17e? 17e, j'entends les deux. Bon, okay. Bien, allez, 16e, 17e, bien. Vous savez où cette œuvre est conservée? Amsterdam, oui. Et à quel endroit? Voilà, au Rijksmuseum d'Amsterdam. Très bien. Je sais. Bien. Ok. Alors maintenant, que représente l'œuvre en question? Qu'est-ce qui est montré sur cette œuvre?
Une femme.
Ça commence très fort. Qui verse du lait. D'où son nom de laitière, d'ailleurs.
Oui. Est-ce que la peinture est entière, là?
La peinture est entière. On ne voit pas les pieds. Elle est effectivement coupée au niveau du bas des jambes. Oui.
C'est une employée, enfin.
Une employée, une femme qui travaille.
Une femme sainte.
Donc on est devant une dame qui n'est pas. Enfin, qui est, oui, une employée, une domestique. Un peu gironde, une sorte de. Elle est établie physiquement, on va dire, oui.
Bien.
Bien portante, oui, on sent que ça va.
C'est la lumière qui frappe aussi.
La lumière.
C'est la lumière.
Oui. Alors c'est un peu accentué par la lumière, justement. Mais oui, oui, effectivement, il y a une lumière assez forte, oui.
Elle a retroussé ses manches,
oui.
Ce qui permet de voir la différence de teinte entre ses bras blancs et ses mains.
Bronzage.
Oui.
à souris par terre.
Un piège à souris par terre.
Une chaufferette.
Une chaufferette ou une pièce à souris ?
Je sais pas, justement, je ne sais
pas. Bon.
Une application,
donc elle est concentrée sur ce qu'elle fait. Vous voyez ? Pardon ?
Une lampe tempête accrochée au mur.
Un panier.
Non, un cage à oiseaux.
Une cage à oiseaux.
Non, c'est un panier.
Un panier.
Elle prépare un repas puisqu'il y a du pain avec du lait. Donc elle doit préparer un repas.
Elle prépare un repas.
Hein? Parce qu'il y a le pain, le lait.
Le pain, le lait. Ok.
Le stragonnat.
Elle a des vêtements colorés.
Des vêtements colorés.
Rouge,
bleu, jaune. Ouais.
C'est même du vert. Il y a des blancs.
Il y a une touche de vert, du blanc, oui.
Mais il n'y a pas de décor sur les murs.
Pas de décor sur les murs. C'est-à-dire c'est assez vide.
C'est la cuisine.
C'est une cuisine, donc c'est assez vide. Oui, c'est pas une arrière-cuisine, une soupente, une souillarde, comme on dit.
Oui, il y a même des quelques petits trous dans les murs.
Il y a des trous dans les murs.
Il y a un clou en haut.
Oui, il y a un clou en haut, effectivement. On voit des trous dans les murs, un clou. Effectivement, c'est pas une salle de palais, quoi. Hein.
Et au sol, qu'est-ce que c'est
du carrelage.
Du carrelage.
C'est des
carrelage au sol.
En fait, c'est très réaliste. Parce
très réaliste.
Oui, parce qu'il a marqué tous les détails, les petits détails, la poussière.
Des détails, la poussière. Très réaliste, beaucoup de détails.
Oui.
Bah, vous en dites des choses, hein.
La cruche est un peu lourde parce qu'elle la tient à deux mains.
Oui, c'est une cruche un peu lourde.
La main gauche.
Oui. Bon.
C'est pour la
écoutez, il y a pas mal de. Vous avez dit pas mal de choses. Hein. Je résume, mais je vais certainement l'oublier. On est donc dans une salle relativement modeste, avec des murs sans rien dessus, une salle où on voit même des tas de petits détails, des trous, des clous, une salle qui est tout simplement carrelée. Et dans cette salle, sur une petite table, une femme qui visiblement est une domestique et qui est à la fois bien habillée mais de manière relativement simple. Hein. Ah, peut-être quelqu'un. Voilà.
Bonjour.
Ella qui est en train de s'affairer à sa tâche et elle s'y affaire de manière très concentrée. Hein. Vous avez insisté sur le fait qu'elle était vraiment très prise par son boulot. Cette femme qui est un peu gironde, à corse, dirons-nous, hein, est vraiment prise par sa préparation, une préparation faite de pain et de lait, visiblement. Hein, voilà. Et vous avez insisté sur des quantités de détails qui étaient là dans la pièce, d'abord les éléments sur la table, hein, mais en bas à droite, quelque chose qui va de la chaufferette au piège à souris, et puis sur le mur, des éléments qui sont pendus, il y aurait un panier, mais qui est peut-être aussi une cage, et puis il y a peut-être une lampe tempête, enfin bref, il y a des trucs accrochés au mur. Est-ce que j'ai à peu près tout résumé ?
Oui. Ouais. Un petit élément comme une... qui porte peut-être quelque chose à l'intérieur, cet élément noir au-dessus du panier.
Ah, au-dessus du panier, il y a quelque chose, un élément noir qui est accroché. Ouais. C'est quoi ça ?
Un petit tableau.
Un petit tableau ?
Un petit tableau qui contient un crucifix ou qui...
Ouais. Bon. Là, il y a quelque chose accroché, peut-être un petit tableau, peut-être un crucifix.
C'est contre la cage.
Près de la cage, oui. Il y a de l'inventivité, en tout cas, aussi. Hein. Ben, je parle de vous, là.
Il y a une plainte en carreau décoré.
Ah oui, exact. Il y a une plainte en carreau décoré, là. Ouais, ouais. Vous la voyez ?
Il y a une petite...
Ça montre quoi, d'ailleurs, ça ?
C'est la céramique de
Pardon.
On serait dans une maison bourgeoise.
Voilà, qu'on est quand même dans une maison bourgeoise. C'est-à-dire qu'on n'est pas là non plus dans une soupente infâme de quelques bouges Amsterdam, hein. On est visiblement dans une cuisine peut-être, dans une souillarde peut-être, mais d'une maison un peu convenable. Hein. Il y a le long des murs, sur la plinthe, des carreaux Et donc, des carreaux décorés, vous le voyez, vous l'avez dit d'ailleurs, hein, qui montrent ben, qu'on n'est pas non plus absolument n'importe où. Hein. Donc, c'est une domestique dans une sorte de fond de cuisine, mais enfin, d'une maison convenable, si j'ose dire. Hein. Ces carreaux qui sont là, ornant la plinthe, le montrent. Hein. Bien.
Tiens, mais la table n'est pas rectangulaire.
Ou alors elle est travers.
C'est difficile à dire. On a l'impression qu'elle est peut-être trapézoïdale parce que là, ce bord-là ne semble pas parallèle à celui-là. Donc effectivement, la table n'est peut-être pas une table rectangulaire, elle est peut-être plutôt trapézoïdale, effectivement.
La table est près de la fenêtre pour la lumière, parce qu'il n'y a que de la lumière de la fenêtre qui éclaire tout.
Oui, on est effectivement près de la fenêtre. Après tout, ça permet d'être mieux éclairé, de mieux préparer ce repas sur lequel elle s'affaire avec concentration. Vous l'avez dit. Hein. Est-ce que vous voyez des choses à ajouter par rapport à tout ça?
Oui, sur la table, il y a une nappe.
Pardon?
Sur la table, il y a une nappe, donc ça veut bien dire que c'est une maison.
Voilà, absolument. Il y a effectivement une nappe, hein, effectivement. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans un cul de basse-fosse. Hein. On est dans une maison gonflable, il y a une nappe qui est faite d'un assez joli tissu, semble-t-il. Voilà, donc tout à fait, c'est un élément de plus qui souligne la relative qualité du lieu.
Et un élément bleu en tissu.
Oui.
Qui est à peu près du bleu du tablier.
Oui, 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 oui. Donc on ne sait pas très bien ce que c'est, effectivement, mais exact.
Ça fait très instantané, un peu comme une photographie.
Un côté instantané, on a l'impression d'un arrêt sur image, une photographie. Et d'ailleurs, vous avez insisté, je ne l'ai peut-être pas redit, hein, sur le caractère important des détails. Il y a beaucoup de détails. Hein. Vous le disiez, par exemple, vous parliez de poussière au sol, de ces trous sur le mur. Enfin, vous avez beaucoup insisté là-dessus. Hein.
Rester sur la table ressemble à une nature morte.
Oui.
Le tableau est dissymétrique, il est surtout chargé dans la diagonale du bas et puis complètement avec peu d'éléments sur la partie supérieure.
Oui, là vous soulignez effectivement un trait de composition. D'ailleurs, tout à l'heure, d'autres ont parlé de lumière. Hein. L'importance de la lumière, la partie droite est très lumineuse, celle de gauche les moins. Et on a effectivement une composition qui laisserait, je dirais, le tiers droit du tableau à peu près vide. Hein. Alors que la partie gauche est beaucoup plus pleine, et notamment avec la figure centrale. Donc une sorte de composition à la fois très symétrique, parce qu'il y a un axe de symétrie, mais chargé à gauche et pas à droite. Donc effectivement, une sorte de composition comme ça, assez travaillée, on pourrait dire, hein, et en fait qui est relativement dissymétrique. Ouais. Bien, bah écoutez, on aura dit des choses là-dessus, hein. Si vous aviez, au-delà de cette description que vous avez faite et qui souligne quand même une série de points, si vous aviez des caractéristiques, voire même des sentiments à faire ressortir de cette œuvre, vous diriez quoi ? Qu'est-ce qui, au-delà de cette représentation que vous avez bien analysée, qu'est-ce qui ressortirait d'une œuvre telle que celle-là ?
La sérénité.
Pardon ?
La sérénité.
Une certaine sérénité, un certain calme. Quelque chose de simple mais noble.
Et laborieux quand même.
Laborieux. Pardon ?
Fatigue.
Elle est concentrée, elle est attentive, très attentive.
Donc appliquée, du travail, on est attentif, peut-être un brin de fatigue, disiez-vous ? Non. Bon, c'est une domestique quand même. Enfin, une fatigue assez sereine malgré tout, peut-être. Hein. Enfin, bon, c'est une femme qui travaille, quand même. Hein. C'est quand même une femme qui travaille, effectivement. Et vous avez encore d'autres choses comme ça qui pointeraient de ce regard sur le tableau? Je crois que vous avez dit beaucoup de choses, mais... Non? Alors, on va aller un petit peu plus loin. Petit cartel, hein. C'est bien une œuvre de Johannes Vermeer qui s'appelle La laitière. L'œuvre est bien du XVIIe siècle. Hein. Hein. Vermeer, c'est un artiste du XVIIe. Hein. Vous savez, on l'appelle souvent Vermeer de Delft, puisqu'il est né à Delft et il est mort à Delft. Donc, voilà. Il est né en 32, il est mort en 75. Ça serait vraiment un artiste du XVIIe. Et ce tableau date... on va dire du milieu du XVIIe, on le date des alentours de 1658-60. Hein. Voilà donc pour ce qui est de ce cartel de l'œuvre. Et effectivement, je trouvais que c'était important, suite à ce que vous avez dit d'ailleurs, aussi, de souligner l'importance des détails. Hein. Vous avez insisté là-dessus, et je crois que c'est effectivement capital. Je vais vous montrer quelques détails de l'œuvre. Là, la partie en haut à droite, alors on voit moyennement bien, mais vous voyez effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a des trous et des clous sur le mur, hein, que Vermeer a tenu à montrer. Hein, parce qu'il aurait pu avoir tout faire un mur blanc avec un peu de, voilà, de d'ombre, mais il représente des trous. C'est quand même assez marrant, ça. On arrivait à représenter des trous... quand même, un niveau, vous avez parlé de réalisme, hein, c'est un niveau de, presque d'hyper-réalisme qui est quand même assez étonnant, des petits, des gros, vous voyez, les trous sont représentés. Un autre moment, et ça souligne bien ce que vous disiez tout à l'heure, à gauche du tableau, on voit même sous la fenêtre des traces d'humidité, on sent bien qu'on est, on n'est pas dans le salon de la maison, si j'ose dire, hein. On est dans une maison un peu chic, certes, mais on est quand même dans un lieu qui est un lieu de travail. On n'a pas réencholé les murs depuis quelque temps, semble-t-il. Hein. Voilà. Ça, c'est la nature morte dont vous parliez. Hein. À votre avis, quel genre de plat prépare-t-elle ?
Oui, un pain perdu.
Une sorte de pain perdu, oui. Une sorte de pain perdu. Effectivement, on sent qu'elle est en train de briser du pain, qu'elle le mélange avec le lait. A priori, c'est un pain perdu. Enfin, ne me demandez pas comment est-ce qu'on dit pain perdu en hollandais, je ne le sais pas. Ça, ce sont les deux choses qui sont accrochées sur le mur. Alors, en fait, au premier plan, vous avez effectivement un panier, hein, un panier, qui est peut-être bien un panier à pain, justement. Hein. Et puis derrière, ce que vous preniez, mais qu'on pouvait prendre évidemment pour une longue tempête, c'est en fait un récipient. C'est une sorte, voilà, c'est ça. C'est une sorte de seau, d'ailleurs. Hein, oui. Vous voyez qui n'est pas circulaire, mais qui est plutôt carré, mais assez profond, qui est en cuivre en laiton, hein, voilà, et qui est pendu derrière. Mais c'est vrai que de loin, dans le brouillard, on peut prendre ça pour une longue tempête, je comprends l'hésitation de tout à l'heure. Hein. Là, c'est sur le mur, ce que vous avez noté tout à l'heure, hein, c'est ce cadre noir qui est accroché. En fait, généralement, il est interprété comme étant un miroir. Vous voyez, voilà le cadre, reflet. Il y a une espèce de reflet le long.
Oui, mais
on pense que c'est un miroir. C'est un peu bizarre parce qu'il est présenté en hauteur. Donc vous savez, quelquefois on voit des choses un peu étranges dans les peintures hollandaises de l'époque. Voilà. Et bien alors, il y a une chose que vous n'avez pas remarquée mais qui est importante.
Le carreau cassé.
C'est le carreau cassé. Vous voyez, il y a un carreau qui est cassé, il n'y en a pas 50. Il y a un carreau cassé. Et ça, c'est un élément quand même assez intéressant qui va dans le sens que je disais tout à l'heure, hein, réalisme d'une part, le fait qu'on soit dans une pièce un peu secondaire et pas dans la pièce de la maison. Et ce petit détail du carreau cassé est vraiment, vraiment important, effectivement, à souligner. Hein. Et voilà notre chaufferette piège à souris qui est bel et bien une chaufferette. Donc c'est pas un piège à souris, c'est une chaufferette. Hein. Donc vous savez comment ça fonctionne les chaufferettes. Hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on met dans l'espèce de petit bol à anse que vous avez là, hein, des braises qu'on met dedans, et puis on peut poser ses pieds sur la chaufferette, ça fait que vous avez chaud aux pieds. Hein. Voilà. C'est assez pratique. C'est donc une chaufferette. Hein. Et puis derrière, vous voyez non seulement les morceaux de poussière, etc., qui traînent au sol, hein, mais une sorte de petite baguette de bois au premier plan. Et vous voyez ces fameux carreaux, hein, qu'il y a derrière, dont Delft avait la spécialité. Oui. Vous savez que Delft est une grande ville de faïence, et une des spécialités Delft, c'était la réalisation de ces carreaux de Delft, avec des petites figures bleues, voilà le bleu de Delft, hein, bleu sur fond blanc. Vous voyez ce qu'ils représentent d'ailleurs ?
Des personnages.
Des personnages.
Oui.
Il y a un moulin.
Non,
un moulin. Où est-ce qu'il y a un moulin?
Non, c'est pas un moulin. C'est un personnage qui a une canne.
Voilà, oui, c'est ça. À droite, vous avez effectivement, là, un personnage qui tient une canne, une sorte de grande rampe. Là, c'est plus difficile à voir. Personne n'a vraiment vu, d'ailleurs. Et puis là.
Un ange.
Non.
Quelqu'un qui boit, une femme souvent une offrande.
Un enfant.
Non, c'est une femme.
Une femme
assise. Une femme est assise. C'est quoi? Elle est dans le malin.
Pardon ?
Elle peint. Elle
quelqu'un qui peint ?
Non, je dirais qu'elle peint.
Elle tient quelque chose.
Pardon ?
Elle élève à...
Oui, quelqu'un qui tient du lenteur.
Ouais.
Alors, en fait, quand on regarde un peu la production de Def, d'un de ces carreaux à décor bleu sur fond blanc, le personnage rouge peut être interprété comme étant, ce que vous disiez tout à l'heure, un angelot. Hein, c'est-à-dire un angelot avec des ailes dans le dos. Alors, il tient quelque chose, il tient peut-être un arc, d'ailleurs. Hein. C'est peut-être l'amour, tout simplement. Hein. Il y a beaucoup de représentations d'angelot, de putti, comme on dit, dans cette Delphes du XVIIe. Donc, vous avez plutôt là un petit amour tout nu qui tient effectivement quelque chose. Vous avez dit hein, que cette personne tenait quelque chose, mais qui a dans le dos des petites ailes. À votre avis, quel est le... Enfin, pourquoi est-ce que, dans un tableau comme ça, Vermeer soigne à ce point les détails? Quel est le but? Quelle est la raison de faire des trous dans les murs, de faire des carreaux où on voit pour un certain nombre d'entre eux à peu près ce qu'il représente? L'objectif, c'est quoi?
L'ambiance,
la réalité, donc vraiment me faire plonger dans la réalité des choses, oui.
C'est pour un témoignage de l'époque.
Donner un témoignage, témoigner de son époque, de l'époque contemporaine, enfin, son temps, quoi.
De prendre le contre-pied des autres peintres qui peignaient des seigneurs, des bourgeois, avec toujours un décor très apprêté, très propre, très nickel, et que là, pas du tout.
Donc, une volonté aussi de, je reformule ce que vous disiez, mais de rendre compte d'un milieu social, on va dire ça, hein, qui n'est peut-être pas celui habituellement présenté dans la peinture en lande à cette époque.
Et d'un quotidien.
Et un quotidien.
Oui, c'est ça, c'est la vie quotidienne.
C'est ça. Un quotidien, c'est on n'a pas une belle dame dans son salon en train de jouer la musique, mais on a une domestique voilà, qui est là en train de s'adonner à sa tâche. Donc on a la représentation d'un type social qui n'est peut-être pas le type social le plus représenté dans la Hollande de cette époque, dans les Pays-Bas du XVIIe siècle. Et donc, le fait de présenter des détails participe de ça, cette volonté de montrer ce quotidien dans le détail et de témoigner de la période. Ouais.
Et il s'adressait à qui ce type de tableau?
Pardon?
Il s'adressait à qui ce type?
Alors, à votre avis.
Voilà. Parce que on est, justement, comme on n'est pas dans le décor robe, ouais, etc., ça n'est pas forcément dans un salon de...
Alors, comment est-ce que vous le voyez? Donc, justement, donc, vous, ce que vous dites, c'est que ce genre d'œuvre qui représente une femme très d'extraction, sinon très basse, très moyenne, on va dire, et donc pas forcément fait pour un public, on va dire, aristocratique ou bourgeois.
C'était pas une commande.
C'est pas une commande?
Peut-être que si.
Ouais, peut-être que si.
Non.
Si. Mais c'est vrai que ça, c'est une question importante, hein, parce qu'on a là la représentation, on va dire, d'une femme du peuple, grosso modo, hein, et pour qui est fait ce genre de tableau? Effectivement, c'est important, ça. Hein. Pour qui c'est fait? Est-ce que c'est fait pour les aristocrates ou les bourgeois de la ville, de Delft, ou d'ailleurs, aux Pays-Bas, d'ailleurs, qui vont mettre ça sur leur mur? Ou si c'est pas fait pour eux, c'est fait pour qui?
Pour une corporation.
Pour une corporation? Vous avez effectivement parlé d'une commande éventuelle.
Dans un commerce.
Ou dans un commerce, une sorte d'enseigne.
Oui.
Une enseigne. Eh oui, je vois que vous faites. Tout le monde fait ses courses ici. Hein.
Enfin, on a vu à la télévision.
Oh oui, oui, oui. Oui, oui. Effectivement. Oui, donc là, on va peut-être pas le résoudre à l'instant, mais vous évoquiez la question de la destination de cette œuvre. Cette œuvre qui représente une femme du peuple, pour faire vite, hein, pour qui elle était faite? Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une commande, puisque ce serait un sujet pas vraiment fréquent dans cette Hollande du XVIIe siècle, qui préfère souvent représenter des figures contemporaines, peut-être, mais plus huppées, je le dis rapidement. Hein. D'accord? Je réinsiste sur la question des détails, donc les détails, hein, je voudrais être sûr que vous n'ayez plus rien à dire concernant ça, mais vous voyez dans les détails quelque chose qui est donc là pour souligner la réalité de la scène et pour insister, sous forme d'une sorte de témoignage précis, hein, sur une période, une époque, celle de Vermeer.
Oui. Les conditions de travail.
Les conditions de travail. Il s'agit de témoigner dans le détail, hein, de ce qui se passe. Ouais.
Je pense pas que ce soit une toile politique.
Pas une toile politique. Oui, ça c'est aussi important de le dire. Est-ce qu'il s'agit d'un manifeste, d'une toile qui...
Non.
Okay.
Est-ce qu'elle est une toile d'étude, c'est-à-dire qu'entre des commandes, il ferait des toiles qui soient dans lesquelles il travaille quelque chose de particulier, soit les détails, soit la lumière, et qui ne soit pas forcément quelque chose qu'il veuille au départ vendre ou...
Alors ça, c'est effectivement une chose, une remarque intéressante. Il pourrait, tout à l'heure, on a dit qu'il pourrait s'agir d'une commande faite pour une corporation, par un commerçant, pour servir d'enseigne, etc. Vous soulignez peut-être autre chose, qui serait plutôt un travail fait par le peintre pour lui, c'est-à-dire un travail un peu personnel, une sorte d'étude réalisée par lui pour travailler des effets de lumière, des effets de couleur. Voilà, après tout, les peintres font ça, hein, ils font des esquisses, des études, des travaux personnels qui ont pour but non pas de répondre à une commande ou à un public potentiel, mais de répondre à leur souhait de travailler à une œuvre d'art. Ça, c'est possible aussi.
Il faut dire que l'attitude de la servante est proche de l'attitude dans d'autres toiles de Vermeer, mais où là, ce sont des personnages plus huppés. Et aussi, avec cette lumière qui vient de la gauche et de la tête, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs toiles de Vermeer. Ce qui fait penser peut-être à une étude. Ça fait penser à une étude.
Mm-hmm. Donc, ça, c'est... Oui. Il va dans le sens, pour moi, c'est qu'il était jeune quand il a fait ça.
En plus, oui,
relativement.
Est-ce qu'il n'était pas encore en formation et en train de travailler pour son maître, une commande par son maître?
Donc on serait là dans une œuvre de relative jeunesse, hein, d'un artiste qui se cherche un peu, qui fait cette œuvre en essayant de se mesurer à des questions, la composition, la lumière, une sorte d'étude, hein, un travail vraiment assez personnel, d'où un sujet qui est un sujet un peu, enfin, qui, semble-t-il, hein, ne répond peut-être pas au sujet habituel de la peinture en Hollande au XVIIe siècle.
Ou bien cette personne,
ouais.
Ou cette personne compte pour lui.
Ou alors c'est une personne qui... Alors, ça rejoindrait un peu l'idée d'un talent très personnel, effectivement. C'était une personne qui compte pour lui, sa servante, par exemple.
Oui, mais c'est la jeune fille à la perle.
Pardon ?
Ça correspond à la jeune fille à la
perle. Ça peut faire penser à tout ce qu'on a pu dire ou écrire sur la jeune fille à la perle, effectivement. Hein. Et peut-être quelqu'un de proche de lui. On parlera peut-être de la jeune fille à la perle tout à l'heure, effectivement. Donc, effectivement, c'est une autre type de possibilité.
En plus, il y a le travail du blanc. C'est quand même pas facile à manipuler, le blanc.
Ben non.
Et là, il y a la moitié du tableau qui
est blanc. Oui. En tout cas, un bon tiers. Absolument.
Un bon tiers.
Oui, absolument. Alors, on va peut-être, avancer un petit peu. Je ne sais pas s'il y a encore... Ouais. Alors, moi, je voulais vous montrer quelques œuvres pour vous faire réagir. Je vous les montre une première fois, comme ça, et après on va les revoir, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, il y a six œuvres, six peintures, je ne vous cache pas trop la vue, voilà.
Les cruches.
Alors, je vous passe ces œuvres et je voudrais que vous me disiez pourquoi je vous les passe, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que là, dans cette séance consacrée à la laitière de Vermeer, je vous montre tout ça. Et qu'est-ce que c'est ?
Des points communs.
Pardon ?
Il y a pas mal de points communs.
Pas mal de points communs, effectivement.
Il y a un stéréotype qui est revisité chaque fois.
Ouais. Là, par exemple, qu'est-ce que vous voyez en deux mots, hein, on va pas. Une scène de marché, oui.
Mais c'est moins serein, quand même.
C'est moins serein, oui.
Des visages.
Oui, oui, c'est beaucoup plus dur. Oui, c'est souvent le cas avec vivants. Oui.
Par contre, il y a toujours un travail avec la lumière, quand même.
Oui, la lumière est importante. Donc, on a un tableau qui représente quoi, donc ?
Un
marché avec
deux femmes
vivantes. Oui. Parce que pour moi, un marché, c'est 3000 personnes qui vont. C'est un étal sur un marché, effectivement, ouais. Avec deux personnes, deux aristocrates.
Non,
c'est parce que je disais tout à l'heure que la peinture en lente, c'est surtout des gens. Ça. Non,
donc
deux fermières. Ok, donc deux fermières. Qui vendent leurs produits, ouais. Il y a une cruche, effectivement.
Il y a beaucoup de
barils. De
barils.
Oui, des barils, oui.
Nature morte.
Nature morte, oui. Et je demande si vous aviez à mettre cette œuvre en parler avec celle de Vermeer, vous diriez quoi, là?
Elle est antérieure.
Antérieure, c'est vrai.
Elle est plutôt remontée.
Plutôt remontée, oui. Moins sereine que vous avez tout à l'heure, oui. Puis moi, il y a une chose qui me frappe aussi.
Il y a encore des personnages.
Il y a... Oui, il y a des personnages dans le fond, oui. Pardon ?
Elle nous regarde.
Oui, la... Alors, elle regarde un peu à gauche, en tout cas, elle tourne le visage vers nous. Ouais.
Toutes les deux regardent par terre.
C'est plus vulgaire, vous disiez ? Oui, dans le fond, vous disiez ?
Non, je disais que
c'est plus tourmenté.
Par rapport au. L'homme de Vermeer où la personne regarde ce qu'elle fait.
Oui.
Elle est... Après, on est sur un marché. Donc,
Oui. Oui, oui. Oui, donc c'est ce qui
mais il y a beaucoup de détails aussi.
Alors voilà, il y a effectivement énormément de détails.
Ouais,
moi, ce qui me frappe, c'est l'espèce d'énorme provision virtuelle. C'est bourré de choses.
Et un lointain, quand même.
Il y a un lointain avec des personnages, effectivement. Alors, vous disiez effectivement que c'était quand même une œuvre plus tendue au niveau de l'expression des gens, effectivement. Hein. C'est beaucoup moins serein. Hein. Et puis, plus tendue, peut-être plus saturée. Quoi. On a l'impression que ça dégringole de choux, de carottes, de vitres.
Toute la toile est remplie.
C'est exactement l'inverse de la toile de Vermeer. Hein. Vous disiez encore il y a 2000 que la toile de Vermeer, c'est un tiers du blanc et rien. Hein. Et pour combler lui, il y a trois trous. La belle affaire. Hein. Là, c'est bourré. Donc on est dans une espèce de... C'est quelque part un peu l'inverse hein, de la toile de Vermeer, même si c'est la même chose. C'est la même chose parce que là, vous avez également des gens du peuple. Hein. C'est la même chose que la laitière. Hein. On n'est pas là devant des belles comtesses, si j'ose dire. Hein. On est devant des paysannes qui sont au marché, qui montrent leur étal.
Des mains du travail humain.
Oui, oui, absolument. Ouais. C'est-à-dire que, effectivement, je crois que le contraste est fort. Hein. Vermeer, vous insistez sur le fait que chez Vermeer, la personne a été peut-être un peu fatiguée, etc. C'est une travailleuse, mais enfin, en même temps, il y a une sorte de sérénité. Elle est vraiment dans son travail. Elle a un côté un peu giron, c'est une femme un peu accorte, pas mal habillée, dans un intérieur sympathique. Là, on est sur un marché, sur des étals. Il y a un côté plus âpre, finalement. Hein. C'est une œuvre de qui, de quand, ça ?
Antérieure,
d'au moins 50 ans. Ouais.
On l'a fait, hein.
Oui. Eh oui.
Meunier.
Meunier.
Non.
Ah, je me rappelle. On verra. Mais évidemment, c'est un artiste dont on a vu dans un précédent atelier des œuvres. Hein. Bon, on passe à la suivante. On verra après. Hein. Comme vous dites, ça ressemble un peu à la laitière. Hein.
Oui, mais l'atmosphère n'est pas la même.
C'est plus sombre. Hein,
c'est beaucoup plus sombre.
C'est plus tendu.
Mais elle nous regarde.
Elle nous regarde.
Ouais. On dirait plus comme une photo.
Voilà. Alors tout à l'heure, on avait parlé également du côté photographique de Vermeer, mais là, c'est peut-être encore plus évident. Peut-être parce qu'elle nous regarde. C'est du grand. Allez, un petit sourire pour la photo. Hein, à ce côté-là.
Enfin, c'est le même vocabulaire. Hein. On a toujours les légumes, la lumière à gauche,
la fenêtre par là.
Oui, mais il y a un geste de la.
Il y a un rideau.
Il y a un rideau.
Oui. À droite, notamment.
Et là, pour le coup, il y a vraiment une lampe. Hein, avec une
il y a une lampe, oui. Là, il y a une lampe. Oui.
Et une cage à oiseaux.
Et une cage à oiseaux. Comme quoi. Donc, finalement, vous avez là une scène comparable. Hein, une scène comparable. On voit une domestique dans une cuisine en train de s'affairer à son travail. Elle est un peu plus. On la sent plus stressée, moi, je trouve, hein, que la laitière de Vermeer, qui était là, tranquille à faire son pain perdu. Hein. Là, on sent qu'il y a un peu de tension.
Elle, quand même, hein. Alors,
elle lève la tête pour regarder le photographe. Enfin, voilà,
elle est pressée.
Oui, oui, il y a un côté.
Se dépêche,
c'est sombre, mais vous notez quand même beaucoup d'éléments comparables à la composition. La fenêtre,
la lumière, la cruche,
enfin, beaucoup d'éléments.
Pardon.
La façon de porter la cruche, oui. Oui, on est vraiment dans quelque chose de très, effectivement, très proche. Hein. Pardon.
Il ne doit pas y avoir 36 manières de porter une cruche, c'est très lourd.
C'est lourd, une cruche, oui. Ouais. Ok.
Là, c'est plus tranquille.
C'est plus cool. C'est plus léger.
On est le tien vert.
Alors là, qu'est-ce qui se passe en fait?
Elle sert à boire à quelqu'un.
Alors, elle sert à boire à quelqu'un ou elle se sert à boire?
Elle se sert à boire.
Oui, sinon elle serait debout peut-être.
Si elle sert à quelqu'un.
Visiblement, elle a peut-être un peu bu déjà avant. Oui. Donc, on a peut-être quelqu'un qui a déjà un peu bu puis qui continue de boire un peu.
Hein. Elle a posé sa pipe.
Elle a posé sa pipe.
Ouais, qu'est-ce que c'est ça?
C'est une pipe.
Ah, la pipe.
Eh oui. La pipe n'est pas qu'un instrument masculin. Hein.
Oui, non.
Du moins, au XVIIe.
Les nobles ne fumaient pas la pipe.
Ben non. Oui, ça se faisait pas.
Voilà, c'est plutôt une femme.
Ben, c'est pas une servante, hein, la polymère, c'est pas de nous.
Non, effectivement, donc on est visiblement devant une femme qui n'est pas une servante, mais qui n'est pas non plus quelqu'un de la très haute société. Ben, on est un peu entre les deux, pardon.
Il y a un tapis.
Oui.
C'est un tapis de table.
Un tapis de table.
C'est pas une cuisine.
Donc on n'est pas dans une cuisine. Donc c'est une dame, on va dire, de la
bourgeoisie.
Oui, on devine une cheminée derrière. Donc on a là une femme qui n'est pas une domestique, mais qui n'est pas une aristocrate, on va dire. Hein. Une dame de la petite bourgeoisie, dirons-nous. Enfin, je sais pas ce que...
Il y a toujours ce ray de lumière de à gauche.
Oui, souvent.
C'est le travail sur les blancs. Oui. Ce tableau, c'est le travail sur les blancs.
Oui.
En règle générale,
Et alors là aussi, par rapport à la cuisinière, à la laitière de Vermeer, vous diriez quoi?
Elle est assise.
Ben, il vaut peut-être mieux parce que. Elle a déjà fait un petit coup. Bon. D'un moment,
les assoir.
Le verre, on ne veut quasiment pas. Le verre, il existe par quelques coups de blanc. Alors, c'est de qui, ça? C'est de Vermeer, ça?
Non. Bon, elle picole et elle fume.
Voilà quelqu'un qui picole et qui fume, hein, c'est pas moi qui le dis. Allez, on continue.
Là, c'est religieux.
Alors là, c'est religieux. Bon. Oui. Alors, elle porte une couronne. Là, c'est une femme qui me porte une couronne. C'est religieux. Alors, c'est religieux, il faut me dire ce que c'est.
Judith.
Pardon.
Judith.
Je ne
sais pas pourquoi, ça fait penser à Judith.
À Judith. Ça manque de tête de le faire. Hein.
Oui,
une Marie-Madeleine.
Ou Marie-Madeleine.
Avec une couronne.
Avec une couronne.
Non. La croix, c'est pas une croix.
Pardon. Où est-ce que vous voyez une croix?
Dans
C'est la naissance des saints.
Ah oui,
c'est ça.
C'est la naissance des saints.
C'est un tableau entier. C'est un tableau entier. Si vous aviez à comparer ça avec la laitière.
Elle
dit à la cruche, elle la supporte de l'autre main.
Donc vous diriez donc que finalement, il y a une composition assez similaire. Hein. Une femme, plus ou moins de face, qui tient une cruche qui verse dans un récipient, sur une table. Donc la position, etc., est la même. Une lumière qui vient grosso modo du même endroit. Mais par contre, une ambiance complètement différente. Vous avez dit que c'était visiblement une femme importante. Elle a une couronne sur la tête, une reine peut-être.
Et puis le vêtement est opulent.
Oui. Un vêtement opulent, un beau vêtement.
Ça peut être Bézabé.
Bézabé.
Oui, c'est un couronné, ça peut être
Bézabé. Allons-y pour Bézabé.
Qui dit que
Elle se lave tout le temps.
Ah oui, pour David, il faut être propre. Hein. Voilà. Donc une femme importante qui a une couronne. Donc on est là plutôt, alors plus du tout dans une scène de la vie quotidienne, si je comprends bien. C'est la même idée, la même composition, mais plus du tout une scène quotidienne.
Non, voilà.
Oui.
Par exemple, le geste de verser de l'eau ou du lait, oui. Ça n'est pas quelque chose qui est un symbole de vie,
Pourquoi pas ? Effectivement, vous savez, là, par exemple, on parle de la source d'eau vive, de l'eau qui régénère. Il y a une autre expression que je n'ai plus là en tête. Mais oui, absolument, l'idée de la fontaine de jouvence, vous savez, j'en ai dit. Absolument, l'eau est, j'allais dire, forcément symbole de vie, d'un aliment favorable, protecteur et dynamisant, je dirais, oui.
Mais l'expression du visage est un peu
soucieux.
Ouais. Donc, une expression dure, hein. Vous disiez que ce n'est pas du tout la même ambiance que
chez Vermeer. Ce n'est pas une scène quotidienne.
Voilà, donc on n'est pas dans une scène quotidienne. On est dans une peinture d'histoire, finalement. Vous avez dit que c'était sans doute une reine, un grand personnage qui a une couronne. Donc, on est dans une composition similaire, mais pas du tout traité de la même manière. Là, on sent une tension avec ce visage, avec ce rictus. Hein. Et puis, de toute façon, c'est une peinture d'histoire et plus du tout une peinture de genre. On n'est plus dans une laitière qui verse du lait dans une jatte. Hein. On est devant une reine qui est en train de verser peut-être de l'eau de manière un peu... Non, pas de l'eau.
Il y a un poison.
La coupe dans laquelle elle verse son poison est assez belle. Hein. Ah, donc on aurait peut-être là une saumâtre reine qui veut empoisonner son mari, par exemple. Hein? Je ne sais pas.
Non. Je parlais de Judith.
Ah, Judith, voilà.
Décidément. Mais oui, il y a un côté violent.
C'est un côté violent.
C'est un personnage violent. Important qui fait un travail de servante.
Un travail important qui fait un travail de servante.
Bah oui,
elle est ils ne sont pas
habillés
comme ça.
Non. Cette femme qui devrait être sur son trône, n'est-ce pas, avec quelques pages, est là, un peu effectivement, comme une cuisinière qui verse de l'eau. Donc il y a effectivement, moi je trouve que c'est assez juste, hein, il y a évidemment une dimension un peu triviale. Alors d'accord, la cruche a l'air d'être d'une belle faïence, elle verse ça dans une coupe qui est en février. Enfin, le geste est un geste, j'allais dire, très quotidien, hein, qui est d'ailleurs celui de, encore une fois, de la Vermeer. Donc il y a effectivement un peu ce double sens qui va peut-être nous aider tout à l'heure pour comprendre de quoi il s'agit. Allez, je montre la dernière. Je crois que c'est la dernière. Non, pas plus.
Non, c'est pas la dernière.
Ah, j'ai oublié de vous dire, le tableau précédent, vous avez une idée de qui a pu le faire?
Rembrandt.
Donc une œuvre hollandaise, en tout cas. Hein. Hollandaise du 17e, quoi. Alors là.
Elle presse quelque chose.
Elle presse quelque chose.
Mais elle a une croix.
Elle a une croix.
Il y a un personnage horizontal. Ah oui,
on dirait qu'il est décapité.
On dirait qu'il est décapité. Ah, c'est mieux.
Il a la tête de
l'âge de sang.
Vous m'en direz des nouvelles.
C'est pas du nez.
C'est le cœur. Donc on a une femme à genoux qui est en train de presser quelque chose, peut-être un corps, pour en extraire le sang et mettre ça dans une belle urne. Il y en a des belles urnes ce soir. Hein.
Elle est bien élevée.
Elle est bien élevée. Elle tient une croix, vous l'avez dit.
Oui,
et vous avez dit qu'il y a un personnage couché derrière, mais qui a l'air décapité.
Blessé.
Effectivement, il y a un personnage décapité, on voit le cou et la tête est à côté.
C'est
vraiment bien.
Elle est hyper sereine devant cette scène, le contraste entre cette jeune fille
qui est en train de presser son cœur en fait, sang pour mettre ça dans une urne. Il y a effectivement un contraste entre la sérénité de la jeune fille et l'horreur de la scène.
Par contre, là, on est à l'extérieur.
Hein, on est à l'extérieur, on n'est plus dans une salle. Alors, qu'est-ce que ça peut... C'est quoi, ça? Encore, je ne sais, quelques reines qui aient fait un poison?
Non.
Il n'y a que des symboliques.
Ou alors, c'était un martyr.
Un martyr?
Lui, récupère le sang du...
Un martyr, et récupère le sang... Du martyr.
Ça fait plus Judith et Holoferne.
Cette fois, on aurait bel et bien Judith et Holoferne.
Mais non, on ne peut pas avoir Judith parce que Judith, c'est avant. On ne peut pas connaître la croix du Christ.
Ah, oui, ça c'est bizarre. Judith qui a la croix du Christ alors que le Christ n'est pas encore né, c'est un problème. Mais Judith est une. Elle voit loin.
Elle anticipe.
Et c'est de qui, ça, alors? Pardon? Alors, au Sainte-Madeleine, c'est vrai que ça fait penser à Sainte-Madeleine.
C'est le cœur du Christ.
Pardon?
C'est le cœur du Christ.
Ah, le cœur du Christ, peut-être. Hein. Ça peut être une sorte d'élément allégorique. Hein, une sorte de Madeleine allégorisée qui tient le cœur du Christ.
Les bâtiments,
difficile à
interpréter, les
bâtiments. Bâtiments derrière, oui. Bon, vous ne m'avez pas dit qui a fait ça et quand?
Plus tard,
en Hollande toujours?
Non.
En Italie?
Peut-être.
Donc voilà, une œuvre plutôt italienne du 18e.
Oui, 18e.
Allez, une œuvre italienne du 18e. Très bien. Super. Alors très bien, vous avez vu la scène, c'est le Christ chez Marthe et Marie. Alors vous pouvez peut-être me raconter en deux mots hein, la scène.
Ça c'est très simple, je la connais par cœur.
Allez-y, je crois que tout le monde sera content.
Christ a été reçu chez Marthe et Marie, qui sont les sœurs de Lazare. Et Marie est au pied du Christ en train d'écouter la parole. Et Marthe est derrière en train de s'affairer pour aller chercher du pain, des viennoiseries et de quoi nourrir le Christ et l'honorer. Et elle se plaint et elle dit au Christ quand même: Marie, elle pourrait m'aider un peu. Et le Christ lui dit: Marie a choisi la meilleure part. c'est-à-dire écouter la parole.
Voilà.
C'est le plus important. Et la parole ne lui fera pas les phrases.
Voilà. Exact. Vous avez donc cet épisode, Jésus dans la maison de Marthe et Marie. Pourquoi est-ce que je vous ai mis ça dans ce petit choix de diapositive ? Pardon ? Pardon ? Attendez, parce que j'entends pas bien. Le blanc. Le blanc, oui, c'est vrai, ça compte.
Le blanc et puis l'attitude de Marthe. Marthe qui est penchée, qui apporte le pain, qui
ouais.
est dans le même genre.
Et qui vous fait penser à quoi ?
À une servante.
Oui. Et par exemple ?
Et surtout l'humilité.
L'humilité,
la servante.
À la laitière.
Ouais, comme la laitière.
Elle fait beaucoup penser à la laitière.
Oui.
Hein, elle est devant, avec son pain devant sa table. Alors, elle ne tient pas une cruche. Bon, tout le monde tient pas une cruche non plus. Hein. Mais voilà, on a évidemment l'impression de...
La composition est très belle.
Pardon ?
La composition.
Oui, ils sont superbes.
Les classiques.
Et alors là, qui est-ce qui a fait ça ?
Oh, je sais que l'auteur, je ne sais pas.
Et quand ? Et où ?
Wow.
Ah, je suis exigeant.
Quelle
année ? Je dirais
16e.
16e ? Non, non,
on est en Hollande, on est en Italie, on est en France, on est en Espagne, on est où là ?
En France.
En France.
Non,
non, pourquoi pas ?
J'en sais rien.
Bon, en tout cas, Jésus, c'est Marthe et Marie, une œuvre qu'on a du mal à situer dans le temps et dans l'espace, mais dont la figure à l'arrière, Marthe, n'est pas, sans nous rappeler, cette servante que nous avons vue tout à l'heure dans la laitière. Ça vous va, ça ?
Oui.
Bien.
Oui.
Là,
c'est
Vermeer. Fastoche, hein, ça, c'est Vermeer. C'est moins célèbre que la laitière. Mais c'est Vermeer. Pourquoi est-ce que je vous ai mis ça ?
Ben, ça explique les trous dans le mur.
Oui, oui, oui. Absolument. Absolument. Est-ce que alors, on n'est pas dans la même pièce. Hein.
D'abord, il y a du vitrail au mur.
Ah oui, oui, oui.
À la fenêtre.
Oui, oui.
Il n'y a pas de carreaux cassés.
Ouais. On est peut-être dans la même maison, mais on n'est pas dans la même pièce.
Dans la même pièce.
Effectivement, là, il y a... S'il y a des trous, ils ne sont pas trop visibles.
Ouais.
La fenêtre où il n'y a pas de carreaux cassés, c'est une sorte de vitrail. Hein. On est là dans une partie plus chic, peut-être, de la même maison.
Il y a une toile au mur.
Pardon ?
C'est une carte.
Les habits, oui, sont plus chic, beaucoup plus chic.
C'est une carte des Pays-Bas.
Il y a
la même
carte.
Il y a une carte, il y a la même série. Puis c'est un peu la même scène. On a encore une femme avec une cruche, quoi. Simplement, ce n'est pas une cruche en grosse poterie comme tout à l'heure, un peu lourde à tenir. C'est une élégante cruche en quoi ? En laiton, je pense. Hein.
Oui.
Voilà, légère, qu'on prend d'une main, insouciante, et qu'on ne porte pas à deux mains, parce que c'est lourd.
Et qu'elle est habillée plus richement.
Elle est habillée plus richement, comme vous le disiez.
Il y a une symbolique particulière de la cruche ?
Ah, à votre avis ?
Je ne sais pas.
Ah, ben moi non plus. ça tombe mal. Nous qui venions ici pour apprendre quelque chose, c'est raté.
C'est plutôt à la main.
Un lave-main.
Ouais,
oui, parce qu'on a l'impression d'un. Tu sais, on se lave les mains, ça tombe dans le patron dessus. Voilà.
Voilà.
Ça dit se laver les mains toutes seules, c'est pas facile. Hein.
Non, mais c'est un décor de la.
Un décor, voilà, ça fait joli. Voilà. Hein. Mais alors pourquoi vous disiez tout à l'heure que ça explique les trous dans le mur ?
Mais la carte.
Mais la carte, si vous voulez, quand on voit le tableau de la laitière, on se dit que c'est un élément de l'atelier et que quand, selon les tableaux qu'il a reproduits, il affiche ou n'affiche pas ceci et cela.
Très bien. On verra tout à l'heure à quel point c'est vrai. Bien. Alors, on corrige la copie ?
Oui.
Hein ? Alors, ça, c'est une œuvre d'un artiste dont on avait déjà parlé il y a quelques années en travaillant sur la Flandre et la Hollande du XVIIe. C'est Beukelaer. C'est un artiste flamand. Du XVIe siècle, donc c'est évidemment antérieur. mais c'est le même, c'est le même genre de, c'est le même genre de d'iconographie, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a également une femme du peuple. Alors là, c'est une paysanne au marché. Hein. Enfin, on n'est pas très très loin de la domestique, peut-être une bonne paysanne montée en ville, hein, qui là vend ses victuailles. Vous avez tout dit, hein, le côté beaucoup moins serein, une densité qui empile les victuailles sur le tableau. Donc on est là finalement dans un sujet assez équivalent, mais avec une impression tout à fait différente, avec un tableau bien antérieur. Mais vous voyez que Vermeer, finalement, reprend Jean Didelin. Parce que tout d'ailleurs, vous disiez, oh, ben, à cette époque-là, on ne présente pas beaucoup de gens du peuple, etc. Que nenni, hein. Au contraire, on les représente très souvent. Et d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure, mais ce genre de tableau, il est fait pour qui ? Qui est-ce qui accroche ça chez soi ? Eh bien, il est fait pour la bourgeoisie et l'aristocratie. C'est-à-dire qu'en fait, la bourgeoisie et l'aristocratie accrochent ce genre de choses chez soi. Il ne faut pas du tout imaginer que la lettre de Vermeer était faite, contrairement à ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, hein, pour être mise dans un coin de l'atelier, etc. C'est vraiment les gens, les grands bourgeois de Thèbes, d'Amsterdam, ont chez eux des scènes qui montrent des scènes très populaires. À côté de ça, ils peuvent avoir des scènes palatiales avec des rois et des reines. Mais ils ont aussi des scènes tout à fait populaires. Par exemple, ce genre de choses. Un Beaulieu, quelqu'un qui... ainsi d'ailleurs qu'un autre artiste dont on avait parlé, qui s'appelle Artsen. Hein, voilà deux artistes qui étaient spécialisés au XVIe siècle dans ces espèces de peintures avec une abondance d'écuailles énorme. Oui. Oui, aussi, tout à fait. Snyders. Oui, absolument. Donc, vous avez raison, hein, y a vraiment une tradition. Donc, vous voyez qu'elle remonte, qu'on la voit déjà au XVIe siècle. Alors, évidemment, à l'époque de Vermeer, au XVIIe, elle est tout à fait validée. Hein, une tradition de nature morte, opulente, de domestique, paysan, etc., que l'on représente et dont le but est d'orner les intérieurs bourgeois et aristocratiques. Hein. Et on trouve justement cette espèce d'accumulation de victuailles tout à fait picturale. Alors, je vous ai montré ça parce qu'effectivement, c'est aussi une œuvre hollandaise contemporaine de celle de Vermeer. Hein. On est là en 1655-65, au milieu du XVIIe. Voilà une œuvre de Gerrit ou Gérard Doux, hein, un artiste de Leyde, non pas Delft, mais qu'on appelle communément la cuisinière hollandaise. Et je crois que vous avez bien résumé, c'est le même thème que Vermeer, mais ce n'est pas du tout la même impression. D'ailleurs, on s'est même demandé si Vermeer n'aurait pas regardé le tableau de Doux pour faire le sien, ou l'inverse. Hein. Il y a une telle identité de composition, on peut vraiment se demander. Mais effectivement, l'impression, ce que génère le tableau, n'est pas du tout la même. Là, ben, vous avez bien vu, hein, on a là une rigoteuse, c'est-à-dire une dame qui aime bien boire. Quoi, hein. Et ben, vous l'avez bien dit. Hein. Donc vous voyez, ça, c'est le genre de tableau qu'on met chez soi. Hein. Donc on ne met pas que des belles dames dans des salons bien habillées, on met également des poivrottes, si vous voulez cette expression. Hein. Donc c'est vraiment une chose... Alors là, c'est de Gabriel Metsu. Vous voyez que cette représentation de gens, soit du peuple, soit d'une bourgeoisie moyenne, petite, mais qui ne sont pas vus sous leur meilleur jour, c'est quelque chose que l'on a chez soi. Parce que c'est aussi une manière de générer une sorte d'humilité, si vous voulez. Hein. Si vous mettez chez vous que des palais et des merveilles, hein, ben, vous allez avoir la grosse tête, si vous voulez. Le fait de mettre sur vos murs des choses qui vous rappellent cette espèce de, comment dire, de facilité de l'homme à entrer dans la décadence, c'est une manière en permanence de vous faire la morale, vous voyez ce que je veux dire ? De vous dire attention, attention, attention. Hein. C'est une manière à la fois de se réjouir de ce monde qui nous montre des choses parfois rigolotes. Hein. La rigoteuse, elle est sympa, finalement, celle-là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est mignon, c'est gentil, quoi. Alors, on a tous rigolé en voyant quelqu'un qui avait parfois un petit coup dans le nez, quoi. Alors, c'est rigolo, hein. Donc, on en rigole, en même temps, hein. De manière gentille, c'est pas forcément méchant. Mais c'est aussi une manière de vous dire, attention, attention, l'homme, la femme, hein, peut avoir des penchants moyennement bien. Donc, en mettant ça sur les murs, c'est une manière de se prémunir contre ça. Hein. OK ? Voilà un autre artiste qui s'appelle Van Mieris, qui travaille dans le même sens, voilà le joyeux buveur, c'est la même chose, hein, toujours le même genre d'idée. Ah, ça, alors là, je vais vous dévoiler ce que c'est. D'abord, c'est un tableau italien, c'est pas du tout un tableau nordique, un tableau italien de Domenico Fiasella, qui représente la reine Artémis. Alors, la reine Artémis, je vous le dis en deux mots, hein, c'est la femme du roi Mosol. Artémis et Mosol ont vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ en Asie Mineure. Ils étaient rois et reines d'une petite principauté du sud d'Asie Mineure qui s'appelait Halicarnas, qu'on appelle, cette ville s'appelle Bodrum aujourd'hui en Turquie. Et donc on est au IVe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque hellénistique, mais Mosol va mourir, et Artémis, qui ne se remet pas de sa mort, va lui construire un tombeau, un mausolée. Mausolée vient du mot Mosol, hein, le nom du mari d'Artémis. Marie d'Artémis s'appelle Mosol. Elle construit un mausolée, c'est de là qu'il y a le mot, mais elle ne se remet pas de la mort de son époux, et elle va aller, pour devenir elle-même, en quelque sorte, le tombeau de son époux, jusqu'à boire les cendres de son époux. Donc là, elle est en train de mettre sur un petit tas de cendres, qui sont les cendres venant du bûcher funéraire, de l'eau, et elle va boire ça, comme ça, elle sera la tombe vivante de son époux. Pas beau, ça ?
Oh là là !
Et voilà. Et donc, vous voyez que, c'est, là aussi, cette œuvre-là, elle est si proche au niveau de la composition, pas du tout au niveau de l'idée, hein, de l'œuvre de Vermeer, qu'on s'est vraiment demandé s'il n'y avait pas eu un regard de Vermeer sur cette œuvre. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, et ça rejoint un peu ce que vous disiez, quand on regarde l'œuvre de Vermeer, cette femme, qui est une femme du peuple, qui est en train de faire son pain perdu, il y a une sorte de, certaines d'entre vous le disaient, de noblesse, hein, vous le disiez tout à l'heure, hein, dont on aurait là une sorte de d'écho grandiose, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas la bonne paysanne qui est en train flamme de vous verser du lait dans une grosse jatte, on a une femme qui, dans toute la noblesse de son travail quotidien, est en train de faire, avec du pain, et le pain en Occident, ça veut dire des choses, hein, est en train de faire un repas, si vous voulez. Hein. Et donc, si vous voulez, il y a derrière le tableau de Vermeer tout ça qui bruisse, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et donc, cette espèce de dimension un peu historique est présente. Là, je voulais seulement vous montrer ça. C'est une autre œuvre italienne du XVIIe siècle qui représente une autre évocation d'Artémis, hein, avec l'urne avec les cendres, l'eau, elle va boire. Donc, c'est vraiment un thème fréquent dans la peinture ancienne. Quant à cette œuvre-là, hein, cette œuvre italienne du XVIIIe, hein, c'est vous qui l'avez dit, vous avez parfaitement trouvé ce dont il s'agissait, mais pas du tout trouvé qui était l'auteur, parce que l'auteur, c'est... Eh oui, c'est la mère. C'est Vermeer, parce que Vermeer, on le met toujours comme auteur de petites dames sur des murs blancs qui sont en train de faire des puddings. C'est pas du tout ça. Hein. Vermeer, elle a fait d'autres choses. Hein. Voilà une œuvre de Vermeer qui est Sainte Princède, et vous avez parfaitement trouvé ce que c'était. Sainte Princède qui elle-même va être martyrisée. Hein. Sainte Princède qui est une jeune chrétienne du IIe siècle de notre ère, allait sur les lieux où des gens avaient été martyrisés, et allait éponger le sang pour aller dans des urnes et ainsi sauver, en quelque sorte, ce qui pouvait l'être de ces saints martyrs. Et j'ai voulu le mettre là parce que vous avez toujours cette composition qui fait beaucoup penser à la laitière, je trouve, hein, cette jeune femme qui est en train de verser quelque chose dans un contenant. Hein. Alors, ce n'est pas du lait dans une jatte, c'est du sang dans une urne. Mais enfin, voilà, vous avez un peu le même genre de choses à travers un Vermeer qui n'est pas du tout abonné uniquement aux scènes quotidiennes, mais qui, vous le voyez, a pu faire des choses d'un autre type. Alors là, c'est pareil. Hein. Vous avez parfaitement trouvé de quoi il s'agissait. On a même décliné une histoire. Et cette œuvre est une œuvre de Vermeer. Voilà. Donc vous voyez, Vermeer est un artiste. C'est une chose qui a été beaucoup travaillée depuis, je ne sais pas, 30-40 ans. Et pas du tout un artiste qui n'est qu'un artiste de genre, c'est aussi un artiste d'histoire. Alors c'est plutôt au début de sa vie qu'il a fait ça, mais quand même. Mais c'est important, parce que ça veut dire que la laitière, qu'on a vu tout à l'heure, que Vermeer va faire après ce genre de tableau-là, est toute pétrie de ça, vous voyez ce que je veux dire, hein. Quand il fait la laitière, vous l'avez senti tout à l'heure, quand vous parliez de la noblesse de cette figure un peu... bien charpenté, hein, qui... Alors, c'est plus une sorte de représentation allégorique du travail, finalement bien fait, hein, et simple, et de l'honneur qu'il y a derrière ça, que simplement une bonne crémière qui est en train de faire son beurre. Vous voyez, hein. Et parce que Vermeer vient de ça. Hein, c'est quelqu'un qui a fait de la peinture d'histoire. Donc quand il fait de la peinture de genre, c'est-à-dire des scènes de la vie quotidienne, c'est avec ce background-là. Hein. Voilà, et je voulais vous passer ça, parce qu'effectivement, c'est de Vermeer, et on a également... une femme avec une cruche, mais un peu différente, on l'a vu tout à l'heure. Bien. Alors, je vais passer, parce que l'heure tourne trop vite, je vais passer à un deuxième petit exercice, qui est le suivant. Je vais vous montrer quelques œuvres de Vermeer, et j'aimerais que dans ces œuvres-là, on puisse pointer des éléments que vous avez évoqués, mais généralement beaucoup moins que je ne l'imaginais, qui est que, on l'a vu dans la laitière, il y a quelques éléments qui sont des éléments de détail et qui ont visiblement une signification assez forte. Il faut bien comprendre que dans la peinture hollandaise, comme dans la peinture flamande du XVIIe siècle notamment, les artistes se plaisent à mettre des petits détails qui ont un sens, qui ne sont pas là simplement, pour faire du pittoresque, hein, pour montrer ce réalisme sur lequel vous insistiez tout à l'heure. Ces détails sont aussi là pour dire des choses. Par exemple, là, qu'est-ce qui, dans le tableau que vous voyez là, peut nous aider au niveau des détails du tableau, des objets qui s'y trouvent, pour nous faire comprendre la scène qui se passe ?
Le miroir.
Les miroirs, oui. Le miroir, oui. La cruche. Les instruments de musique. D'ailleurs, c'est quoi ? Elle joue de quoi, la petite dame, d'abord ?
C'est
Pinette. Alors moi, je suis nul en instrument de musique, mais ce n'est pas tout à fait une épinette. Je le sais parce que j'ai lu des
clavecins. Oui, ça peut être clavecin.
Ce n'est pas le clavecin non plus.
Oh,
c'est pas loin, hein, c'est un instrument un peu du même type.
C'est pas un harmonium.
Non. On est très près, mais... Je parle sous l'autorité de gens qui ont étudié cette œuvre bien mieux que nous ne saurions le faire.
Oui, puis y a
ça commence par un V. Et puis il y a un I. Non. Et puis il y a un R. Et puis il y a un G.
Virginal.
C'est un virginal. Cette jeune femme est en train de jouer au virginal. Qui est en effet une sorte de clavecin, épinette, tout ce que vous voulez. Bien. Bien. Et effectivement, ce virginal-là.
Mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose sur le couvercle du virginal, mais moi je ne le vois pas bien.
Oui.
C'est une leçon.
C'est une sorte de leçon, oui.
C'est le maître des misères. Oui, elle prend une leçon de musique.
Voilà, c'est une leçon de musique. Il y a la jeune femme qui effectivement joue du virginal. Ça vous inspire quelque chose, ça ? Pourquoi c'est pas par hasard ?
C'est une jeune fille.
Pardon ?
C'est une jeune fille.
C'est une jeune femme, tout à fait convenable. On n'est plus dans l'arrière-cuisine de la maison. On est là, devant un virginal, ça coûte un peu cher, ce genre de choses. Vous avez vu le sol, en plus ? En marbre bicolore, c'est chic.
Et encore le tapis.
Et le tapis table.
Il y a un tapis table, c'est quand même assez riche.
Et puis les fenêtres aussi.
Les fenêtres à vitraux. C'est quand même... Il y a des tableaux, on en voit. Donc on est dans un lieu tout à fait convenable. Donc il y a la jeune femme, mais vous ne m'avez pas parlé d'autre, de quelqu'un d'autre. Il y a la cruche, d'accord, mais il y a quelqu'un aussi. Voilà. Et pour ça, n'est pas une cruche, me semble-t-il. Je ne pense pas. Alors, on a donc une sorte de leçon de musique, un homme qui pourrait être un professeur, une jeune femme qui joue du virginal, une jeune femme jeune, et pas encore femme, si j'ose dire, qui est là et qui prend, on ne sait pas d'ailleurs, enfin, elle paraît assez jeune, oui. Voilà. Alors, quels sont les... Vous avez souligné quelques éléments. Effectivement, le virginal qui évoque la virginité, la jeunesse de la jeune femme, ok ? Il y a là une sorte d'élément qu'on n'a pas choisi un virginal par hasard, virginal pour suggérer ça. Il y a un autre instrument de musique au premier plan.
Oui, le violoncelle.
Voilà. Alors, ce n'est pas tout à fait un violoncelle.
C'est
Alors, j'ai oublié, mais voilà, sur les questions dans ce coup-là.
Donc, ce violoncelle, c'est plus petit.
Peut-être une viole de gambe, effectivement, mais je...
Voilà, je... La contrebasse, c'est plus grand.
Oui, oui, puis je crois... C'est, en tout cas, c'est... Je l'ai lu, mais je n'ai pas lu. Mais c'est peut-être viole de gambe, évidemment. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que... au XVIIe siècle, on aime beaucoup représenter comme ça, dans ce genre de scène, deux instruments. Par exemple, un instrument à cordes pincées et l'autre à cordes... C'est tapé le...
Oui,
frappé. Enfin bref, frappé. Deux instruments de ce genre. Pourquoi, à votre avis ?
C'est le symbole du dialogue entre l'homme et la femme.
De la féminité et de la masculinité.
Voilà.
Alors, il y a ça. Et puis, effectivement, du dialogue et puis de la... De l'harmonie. C'est-à-dire, l'idée, c'est de montrer ici, non pas une sorte de rapport contendant entre les personnages, mais au contraire, un lien harmonieux. On a là deux personnages qui vont jouer de la musique ensemble, et donc c'est une idée de l'harmonie. Alors vous voyez que le monsieur est tout à fait convenable vis-à-vis de la jeune fille, on peut imaginer toutes sortes de choses, mais c'est effectivement une idée de l'harmonie. Alors, c'est un tableau de Vermeer, hein, la dame au Virginia avec un gentilhomme, et qui effectivement, où les objets, et les, en l'occurrence les instruments de musique, évoquent ça. Et là, autre tableau de Vermeer. Alors, elle pèse effectivement.
Elle pèse des perles.
Elle pèse des perles, peut-être, ou de l'or, effectivement, parce qu'on voit que cette jeune femme tient une petite balance et qu'elle a son coffre à bijoux ouvert. Il y a des perles, un peu d'or. Elle est en train de peser tout ça. Ok. Et quoi d'autre?
Même éclairage, même
position. On a toujours le miroir en face.
Le miroir, l'éclairage.
Le miroir, effectivement.
Et le tableau.
Un tableau.
Un tableau.
Un
jugement versé.
Il n'est pas innocent, le tableau. Il y a l'enfer.
C'est un jugement dernier.
Et c'est un jugement dernier. Mais qu'est-ce qui se passe dans le jugement dernier?
Ah bah,
et ben voilà, on pèse les armes. Voilà. Donc il y a, si vous voulez, une sorte de rapport entre la jeune femme qui est en train de peser son or et le tableau mur qui a besoin d'un jugement dernier, où Saint-Michel pèse les armes. Hein. Donc il y a une espèce de rapport qui est là aussi un petit peu pour nous dire, hein, bon, pèse ton or, mais enfin, il n'y a pas que ça au monde, quoi. Enfin,
il y a un peu cette forme de vanité.
Voilà, c'est ça. Je force un peu le trait, parce que c'est beaucoup plus poétique et subtil que ça, mais l'idée est un peu celle-là. Hein. C'est une manière de rappeler qu'une espèce d'intérêt de la préciosité, par rapport au jugement dernier, n'a plus beaucoup d'intérêt, justement. Hein. Donc, la femme à la balance. Et là.
L'annuseuse de l'être.
Voilà, c'est un tableau. Donc, tous ces tableaux que je vous montre là sont des tableaux de Vermeer, bien sûr. Hein. Et l'idée, c'est, je vous rappelle, de voir comment il y a des éléments, des détails dans le tableau qui viennent s'associer à la représentation pour dire des choses. Là, qu'est-ce que...
Il y a encore le miroir.
Il y a le miroir, toujours.
Là, il y a une coupe de...
C'est la fenêtre, effectivement. La fenêtre est ouverte.
La
coupe de fruits qui est renversée.
Toujours un tapis de...
Un tapis de table qui est un peu bougné, lui aussi, d'ailleurs.
Il y a beaucoup de désordre.
Pas mal de désordre.
Il y a un rideau ouvert.
Un rideau ouvert.
Peut-être que ça peut être un espace intime.
Il y a des choses attachées.
Oui.
Là, on a ouvert le...
Ouais.
Il y a une lettre d'amour, là.
Oui.
C'est un
SMS.
C'est
de la rupture.
Hein,
c'est
la rupture.
Une lettre d'amour, mais c'est pas... Okay. Voilà, c'est
un peu tout ce que vous dites, c'est-à-dire que on a là très cette idée, ce thème de la lettre que lit une jeune fille est un thème très fréquent chez Vermeer, aussi dans la peinture hollandaise ou flamande de l'époque, hein, et c'est généralement effectivement lié à au sentiment amoureux. Donc elle est visiblement en train de lire une lettre d'un homme, etc. Vu son visage. Ça se passe moyennement. Et souvent, il est probable que la nature morte au premier plan, qui est bien désordonnée, hein, ouais. Qu'est-ce que c'est, ces tapis renversés, ces fruits qui se cassent à la figure sur la table, tout ça n'est pas d'une grande sérénité, si vous voulez. Hein. Donc, effectivement, il y a là une manière de suggérer une espèce de lien entre le désordre de la pièce, le désordre dans la tête. Et puis le rideau qui est là, qui correspond, vous le savez, hein, à une réalité. C'est-à-dire qu'on mettait souvent devant les tableaux précieux des rideaux pour éviter que les tableaux ne s'abîment, que la suie n'aille sur le tableau, que les mouches n'y aillent aussi. Donc, une fois, il y avait souvent de vrais rideaux devant les tableaux pour empêcher qu'ils s'abîment. Donc là, c'est une sorte de trompe-l'œil, si j'ose dire. Hein. Mais c'est un trompe-l'œil qui, en même temps, joue comme l'idée de la révélation. Si vous voulez, on tire le rideau pour montrer, j'allais dire, pour révéler... J'avais presque dire certains moments de la vie, vous voyez ce que je veux dire, hein, vous avez quelquefois ces rideaux qui sont encore une fois des vrais éléments, mais qu'on présente souvent en trompe-l'œil sur les tableaux, correspondent à des scènes religieuses. On voit le Christ, par exemple, et il y a un rideau sur le côté, c'est quelque chose qui évoque la révélation de la foi. Mais là, il ne s'agit pas d'une scène religieuse, mais on révèle la réalité du genre humain, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire ? Le rideau n'est pas là que comme un trompe-l'œil pour faire semblant qu'il y a un vrai rideau sur un vrai tableau, mais pour révéler une sorte de dimension de la condition humaine, qui en gros est faite de haut et de bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, d'une femme, ils ont une lettre.
Alors là, c'est le carreau de la plume. Là, il y a profusion de tableaux.
Pardon ?
Il y a mis des plats.
Oui, oui, oui. Ah oui, oui, avec petit chaos de Deft, vous voyez, en or. Hein.
On est toujours avec le sol noir et blanc.
Oui.
Les vitres
décorées. Les vitres, très belles, très bien.
Ouais. Le virginal.
Le virginal.
Le tableau. Il y a
le tableau.
La chaise bleue.
Il y a la chaise.
Oui.
Un petit amour.
Un petit amour. Oui. Bah non, il n'est pas petit, je trouve. Ouais. Il est grand. Hein. Et alors, cet amour, justement, sur le tableau. Triomphant. Hein. Triomphant. On n'est pas dans l'œuvre précédente. Hein.
Là,
vous voyez comment les éléments, la coupe, le rideau, etc., révélaient une sorte de drame intérieur. Hein. Là, on est devant une femme qui est en train, très sereinement, elle vous regarde avec du sourire, qui est en train, assez sûre d'elle, hein, de jouer à son virginal. Et puis, derrière elle, il y a l'amour triomphant. Donc, vous voyez que c'est le... Vous voyez comment il y a toujours cette nécessité d'évoquer avec des attributs, on pourrait dire, ce qui se passe. Et là
les deux instruments aussi.
Oui. Toujours au même endroit, les larmes sur les
doigts. Oui. Voilà, peut-être qu'il y a une viole de gambe, oui.
Et là, il y a le rideau.
Oui, il y a effectivement le rideau. Donc toujours cette idée de révélation, notre condition.
Il y a encore un tableau derrière.
Un tableau derrière, vous voyez ce qu'il représente ?
Alors, il y a un tableau derrière avec une dame qui est face à le tricheur.
Ça fait penser.
Oui, les tricheurs.
Oui, ça fait penser un peu à ces tricheurs de Georges de la Tour. Hein, voilà. Il y en a deux. Un à l'as de carreau et l'autre à l'as de pique. Là, il y en a deux. Donc, vous avez bien vu, on a toujours cette jeune fille au virginal. Il y a toujours les deux instruments qui évoquent cette espèce de communion des âmes, hein, d'harmonie. Le rideau est là comme nous, pour nous permettre une sorte de révélation sur notre condition humaine. Mais il y a derrière effectivement un tableau. Alors, ce tableau, on sait très bien ce que c'est.
Oui, on sait ce que c'est.
C'est ça. Le tableau qu'il y a derrière, il existe en réalité. C'est ce tableau de Dirk van Baburen, qui est un artiste hollandais du début du XVIIe, que visiblement Vermeer possédait, et qui représente une entremetteuse. Hein, vous voyez la mère Macrène à droite, la prostituée à gauche, et l'homme qui est en train de... Voilà, hein. Voilà le genre de tableau qu'on avait chez soi. Hein. Ça, on a ça chez soi. D'ailleurs, vous avez vu la petite jeune fille, là. Elle est en train de jouer du virginal, bien gentiment, sous ce tableau. Hein, j'invente rien, enfin voilà. Ok ? Donc, vous voyez que ce genre de tableau, pas un peu graveleux, on a ça chez soi. Tout comme la riboteuse de tout à l'heure. D'accord ? Voilà. Et donc, le message est assez clair. Hein. Il faut là... Enfin, la jeune fille, elle est placée entre, l'amour sacré et l'amour profane. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez comment ça fonctionne ? Hein. D'un côté, l'harmonie des deux instruments qui, ensemble, doucement, vont se combiner harmonieusement. Et puis de l'autre, un amour plus, comptable, hein, qui est celui évoqué par le tableau de Dirk van Baburen.
Oui, c'est la condition des jeunes filles de l'époque, c'est-à-dire qu'elle rêvait d'un bel amour, d'un beau mariage, et les parents derrière travaillaient pour un mariage arrangé.
C'est parfois ce qui se passe. Voilà. En tout cas, il y a là, si vous voulez, une manière de lever le voile sur la condition humaine. Donc vous voyez comment, dans les tableaux de Vermeer, il y a toujours cette capacité à mettre des objets pour contribuer à dire des choses. Je voudrais un dernier petit exercice. Je vous montre là quelques œuvres. Je vous les montre une première fois, on va les voir une deuxième fois, toutes de Vermeer. Hein. Et j'aimerais peut-être que, rapidement, on voit comment on peut les caractériser par rapport à notre laitière, là aussi. Alors.
C'est la même concentration.
Même concentration.
Même visage.
Voilà.
Même concentration.
Absolument. Hein, c'est-à-dire que il n'y a rien dans la pièce, c'est notre fameux blanc de tout à l'heure. Hein. Ouais. On a toujours cette femme qui est très concentrée. Alors là, on n'est pas devant une domestique, hein. Une femme convenable qui est en train de faire de la dentelle.
La dentelle.
Mais effectivement, c'est la même concentration noble sur la tâche manuelle. Voilà. Hein, la noblesse de la tâche. Hein.
Dentelle au fuseau.
Pardon ? Oui,
dentelle
au fuseau.
Dentelle au fuseau.
Oui, au fuseau.
Oui, oui, on voit
le
fuseau.
Et là. Oui, c'est bien galant.
C'est
galant. Oui, c'est au-delà du galant. Qu'est-ce qui se passe, en clair ?
Oui, alors, il y a l'entremetteur derrière qui a proposé à ce jeune homme de courtiser.
Bah oui.
Plus c'est affinité, c'est en.
Oui, oui, bah oui. Vous voyez quand même tout de suite la différence par rapport à d'autres choses. Hein. En clair, on est dans une maison close. On est dans un bordel. Et on voit une jeune femme au premier plan qui a l'air assez contente d'elle-même de faire une bonne journée, là. Hein. Et il y a un monsieur qui est en train de la courtiser, puis un autre derrière qui est un peu fatigué, qui est en train de s'endormir sur la table. On ne peut pas dire que ce soit d'une distinction formidable, mais on a ça chez soi. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour la raison que je vous ai tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en ayant ça, peinture merveilleuse, extraordinairement subtile, hein, magnifiquement peinte, en ayant ça, c'est aussi une manière d'avoir sur ses murs, encore une fois, ce qui est indépendant de la condition humaine. Les Vermeer, c'est ça, mais beaucoup de peintres hollandais, flamands de cette époque, c'est ça. Ils montrent, quelquefois joyeusement, ils rigolent, la jeune fille au premier plan, hein, montrent de manière joyeuse les travers humains. On le déplore et on le montre en même temps, mais on n'en faisant pas forcément un drame. Absolument. Absolument. Tout à fait. Tout à fait.
Qu'est-ce qu'elle est dans le tableau au fond ? C'est quoi ?
Alors, c'est un peu l'inverse des messieurs du premier plan. Là, vous avez des messieurs galants qui bon, sont habitués de ce genre de lieu. Et derrière, vous avez un personnage noble hein, qui apparaît, un portrait d'une figure noble, si j'ose dire. Alors, chose amusante, il y a là à nouveau un vitrail. Et dans le vitrail, vous ne voyez pas, mais il y a la présentation de la tempérance. C'est la tempérance, hein, voilà, qui en gros semble dire, bon, doucement. Hein, voilà. Vous voyez toujours ce détail qui vient donner au tableau un sens particulier. Ça.
Oui,
oui, oui.
On est toujours dans la même pièce.
Oui, oui. C'est un peu finalement, c'est un peu la même concentration que la laitière, sauf que c'est plus une laitière. C'est pas une femme qui travaille, c'est une femme qui est dans un, qui est en train de pratiquer la musique. Hein, elle est dans un loisir favorable, si j'ose dire. Hein. Mais alors en même temps, oui, du luth. Elle est en train de regarder par la fenêtre, au milieu comme ça, un petit peu légère. Mais enfin, on sent une espèce d'ambiance un peu moins vide. Hein. Là, on a remis la carte sur le mur, elle cache les trous, si j'ose dire.
Et franchement, cette carte, elle est belle. Hein.
Ah oui, oui. Elle est, on la retrouve dans différentes œuvres.
Oui, dans différentes
œuvres. Et là.
Oui, là encore une.
Oui, c'est pas la même carte.
Hein. C'est pas la même carte.
Non, c'est la carte d'Amsterdam.
Mais c'est les mêmes gens.
Le premier lustre.
Et alors, ça, c'est quoi ?
C'est
un peintre. C'est Vermeer.
Alors, c'est effectivement l'atelier du peintre. Hein. Vous avez. Là aussi, on nous dévoile la chose. Hein.
Ouais.
Donc, c'est effectivement un atelier de peintre. Est-ce Vermeer ou pas ? Difficile de le dire. Enfin, c'est un atelier de peintre, effectivement. Et là, l'ambition du tableau, c'est quoi ?
C'est la gloire des Pays-Bas.
Ouais.
C'est la gloire.
Et que ça ?
C'est
la gloire de la peinture.
Voilà, je pense plutôt ça, c'est-à-dire qu'on a là effectivement un tableau qui est une sorte, on quitte, si vous voulez, le genre qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les scènes de genre avec une laitière ou une femme en train de jouer au luth, et on arrive vers quelque chose de beaucoup plus allégorique. Hein. on a effectivement là une sorte d'allégorie de la peinture où on voit un peintre qui fait poser une jeune femme, mais avec une couronne sur la tête, une, sans doute en victoire, quelque chose comme ça. Donc on est là dans quelque chose qui dépasse la scène de Jean, mais qui va effectivement vers l'idée de l'allégorie.
C'est toujours la même. Toujours la même.
Oui. Oui. Donc là, effectivement, on a une femme enceinte, mais je crois qu'on retrouve la même chose, c'est-à-dire la même, cette espèce de sérénité silencieuse avec des murs blancs. Elle est en train de lire sa lettre avec la même attention que la laitière tout à l'heure versait son lait, d'une certaine manière. Et on a cette espèce de même densité qui est là, avec une femme effectivement enceinte et qui reçoit une lettre, sans doute une lettre de son époux. Ça a l'air de se passer pas trop mal, semble-t-il.
Il y a la guerre.
Peut-être. D'où la carte derrière, peut-être aussi. Plus chargé.
Toujours la servante et sa maîtresse, elle joue du luth.
Oui. Alors il y a effectivement la servante derrière la maîtresse dedans. Elle tient quoi, la maîtresse ?
Une lettre
que la servante vient de lui amener.
Ouais. En plein ménage.
En plein ménage. Il y a le balai au premier plan.
Elle a quitté ses chaussures.
Ouais. Une sorte de scène de la vie quotidienne, mais avec des sortes d'interrogations. Regardez la tête de la maîtresse à qui la servante vient de remettre la lettre.
Pas très clair.
Voilà, c'est pas super clair. On sent une sorte d'inquiétude, d'attente, peut-être.
Hein? Il y a le petit sourire ironique de la servante.
Oui, oui, la servante a un sourire ironique, peut-être pour un peu calmer l'angoisse de sa patronne, hein? Ou bien pour, enfin, je sais pas. À vrai dire, il y a, si vous voulez... chez Vermeer, toujours une sorte de flottement de la chose. Alors non, c'est pas le fin mot de l'histoire, vous voyez. Vous remarquez au premier plan la chaise avec des habits posés. Là, il y a des partitions, semble-t-il. Et toujours le rideau qui nous dévoile ça. Une scène de la vie quotidienne où les objets ont un sens, et notamment la lettre, là, hein, et on nous dévoile toujours, hein, cette espèce de condition qui est la nôtre.
Oui, on arrive d'ailleurs par un couloir qui n'est pas très beau. Hein,
non.
Vous travaillez sur la gauche.
Oui, on est dans une sorte de placard, là.
Ouais, c'est pas ouais. Tout, hein.
Non, c'est pas terrible. Il y a des dégoulinures. C'est pas terrible. Ouais.
Hein. C'est en désordre. Hein. Ah, voilà, j'ai dit, hein,
la perle.
Très célèbre. Ah, c'est quoi ?
C'est un tableau, oui. C'est portrait.
Pardon ?
Une sorte de portrait.
Voilà, une sorte de... Parce que est-ce que c'en est ou pas, à vrai dire ? Alors, bien sûr, c'est un portrait en sens que c'est le visage de quelqu'un qui l'a fait poser. Mais est-ce que l'ambition de Vermeer était de représenter cette personne, ou pas ? Ça, c'est pas sûr. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une différence entre faire le portrait de quelqu'un et appeler ce portrait « portrait de Madame Machin » et de faire poser quelqu'un avec, là, en plus, un accoutrement qui n'a rien de hollandais, hein, qui est plutôt très oriental, hein, et d'en faire une femme avec une perle et qui n'est pas du tout le portrait d'une femme hollandaise.
La pose fait. Est étrange, parce que c'est pas de face, c'est pas... C'est comme quelqu'un qui se retourne, c'est tout.
Un tableau étrange, énigmatique.
Et la bouche entrouverte, voilà. Et une interrogation.
Et je crois que c'est un tableau qui, comme... je vais un petit peu... Voilà, bah c'est presque fini. Qui, comme le tableau qui nous a intéressé aujourd'hui, montre bien, vous voyez, l'ambiguïté du travail de Vermeer. La laitière montre en effet une domestique en train de verser du lait, mais on a vu que c'était bien autre chose. Qu'il y avait derrière ça une espèce de noblesse, de grandeur d'une figure qui fait sa tâche, mais qui en plus, j'allais dire, résonne avec des grandes figures de l'histoire jusqu'à cette fameuse Artémis, vous voyez ce que je veux dire. On a vu aussi comment les différents petits détails, le petit amour sur la frise en bas du mur, le verre cassé, étaient des éléments qui n'étaient pas là simplement pour faire un peu pittoresque et pour, de manière réaliste, montrer où on était, mais avaient sans doute aussi un sens. C'est ce qui fait, si vous voulez, que la laitière de Vermeer, et les tableaux de Vermeer en général, n'est pas, je dirais, un simple tableau réaliste pour montrer, pour témoigner une scène de la vie quotidienne, et puis basta, hein. Mais c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin et qui, de manière un peu, j'allais dire, ambiguë, est entre une sorte d'allégorie de la noblesse du travail simple et vrai et dense, dans une vie saine, pourrait-on dire, et puis la simplicité du travail de tous les jours. Il y a chez Vermeer, si vous voulez, quelque chose qui flotte un peu entre la grandeur d'une allégorie et le quotidien de nos vies. Vous voyez ce que je veux dire ? Vermeer, il est entre les deux. C'est bien ce qui fait d'ailleurs que la laitière est un tableau aussi célèbre. Alors pour terminer, je vous ai fait un petit patchwork assez marrant. Alors oui, il y a d'abord les cartels, voilà, hein, des œuvres que je viens de vous montrer. Bon, vous les connaissez, toutes ce sont des œuvres Vermeer. Mais pour terminer, je voulais vous montrer toute une série d'œuvres réalisées d'après la laitière. Il y en a des myriades, hein, c'est comme le penseur de Rodin. Hein. Mais là, par contre, vous voyez un tagueur qui a fait une laitière. Là, vous voyez des Playmobil laitières. Hein. Alors, je ne parle pas de la laitière que vous mangez tous les jours à votre petit déjeuner. Hein. Ne regardez pas la télé trop, quand même. Hein. Et alors, ce qu'il y a d'amusant aussi, c'est que un des grands trucs actuels, vous le savez, et avec le confinement, ça a beaucoup joué, beaucoup de gens s'amusent maintenant à reproduire des tableaux et à le faire avec soit beaucoup de précision, soit beaucoup d'inventivité. Là, vous voyez un photographe qui est en train de faire poser une dame, et le but, évidemment, d'avoir une laitière quasi parfaite. Hein. Mais on voit sur les réseaux sociaux, que je ne fréquente pas, mais que vous fréquentez tous les jours, on voit des quantités de laitières. Voilà une laitière. Par exemple, de manière assez amusante, je trouve une maison de retraite à faire comme ça. Et là, vous voyez une laitière. Bon. Alors, c'est une interprétation, mais je trouve ça vraiment marrant. Quoi. Là aussi, hein, une laitière avec un bidon de lait. Voilà. Alors, vous avez toutes sortes de choses. Hein. Vous avez celle-là aussi. Parce que l'idée n'est pas forcément de copier la laitière, hein, mais de s'en inspirer. Hein. Voilà, donc on a réuni toutes sortes de choses. Et moi, j'aime assez la dernière laitière, qui est dégenrée, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de raison que la laitière ne soit pas laitière. Et, tout. Et voilà, donc là, vous avez un laitier qui...
Il est en train
de mettre du lait dans une jarre. Dans un couloir. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est aussi ça la rançon du succès, si vous voulez. Hein. Ces œuvres sont tellement ultra célèbres qu'elles sont maintenant malaxées dans tous les sens et que là, je vous montre quelques-unes, mais il y en a des myriades d'autres.
Merci.
Et ben voilà. Alors.